Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le Nouvelliste. Au programme, réseaux sociaux, les amitiés imaginaires, repenser nos façons d'agir sur les inégalités sociales et plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti. Bonne écoute.
Réseaux sociaux, les amitiés imaginaires. Un texte de Florence Dancause, paru le 22 janvier 2023 dans la presse. Grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir l'impression de tout connaître d'une personnalité publique, jusqu'à, parfois, la considérer presque comme une amie. Ces relations dites parasociales sont tout à fait normales, explique la psychologue Marie-Anne Sergerie. Le phénomène suscite tout de même plusieurs questionnements. Mais qu'est-ce qu'une relation parasociale? C'est quand une personne a l'impression d'avoir ou s'imagine avoir une relation avec une personne connue, décrit Marie-Anne Sergerie. Mais il y a une espèce de relation à sens unique où il n'y a pas de réciprocité. Le vedettariat a toujours existé, rappelle Nelly Brière, consultante en communication numérique et réseaux sociaux. Le numérique amène toutefois un plus grand sentiment de proximité. On a toujours notre téléphone avec nous et on consomme le contenu seul, explique-t-elle. En plus, le mode de format comme les stories permet de documenter sa vie et de la mettre en scène. Les réseaux sociaux sont des plateformes où la diffusion d'informations personnelles est un peu moins filtrée. Ça peut donner une impression de proximité et d'avoir accès à du contenu privilégié, dit Marie-Anne Sergerie, psychologue. Il est donc normal de presque tout savoir sur la dernière rupture de notre vedette préférée, d'être inquiète pour l'animal de compagnie d'une personne connue qu'on suit religieusement ou d'être bien au fait de ce que plusieurs célébrités ont fait de leur temps des fêtes. Les relations parasociales ont augmenté aussi avec la croissance du nombre de personnalités publiques, que ce soit des célébrités ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. La relation entre un abonné et un influenceur, elle vient d'une personne qui va donner beaucoup de contenu, indique Emmanuel Parent, doctorante et chargée de cours à l'Université de Montréal, cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL. Ces relations ne sont pas forcément malsaines, dit la psychologue Marie-Anne Sergerie, auteur du livre « Cyberdépendance, quand l'usage des technologies devient problématique ». À la base, l'humain est un être social. Alors on a besoin d'être en lien avec les autres et naturellement, on a tendance à se regrouper et à former des liens pour le faire. Maintenant, ça se fait plus derrière un écran et sur les réseaux sociaux. Sonia Benezra est toujours étonnée par le contact direct qu'offrent les réseaux sociaux. Il y a une intimité présente et encouragée, dit l'animatrice qui est suivie par 33 000 personnes sur Facebook. Certains la considèrent comme une amie ou même une confidente et lui livrent des messages très personnels. « J'apprécie que les gens prennent le temps de m'écrire », confie-t-elle. Sonia Benezra évite de répondre à quelques messages qui la rendent plus mal à l'aise, comme des gens qui l'invitent à prendre un café, mais somme toute, elle apprécie cette proximité décuplée par les réseaux sociaux. L'animatrice se fait même un devoir de répondre aux messages qui la touchent. « Je prends le temps d'écrire quelque chose de songé, quelque chose qui n'est pas instantané. » Sonia Benezra se dit-elle même généreuse dans ses réponses et veut à tout prix être authentique avec ses fans. « Je ne mens pas en disant que tout est beau ou que tout est parfait », concède-t-elle, surtout qu'elle ne veut pas tenir pour acquis cette communauté virtuelle qui la suit et l'encourage. Des nuances. Florence Lyonnais suit des célébrités sur les réseaux sociaux et ce, depuis longtemps. La jeune femme se qualifie même de « fangirl ». De plusieurs actrices, Elle se rend même à des salons pour les rencontrer. « C'est sûr que je les connais au-delà de leur rôle, » dit-elle. « Ce que je trouve intéressant, c'est de voir leur quotidien, d'en apprendre un peu plus sur ce qu'ils font d'autre que de jouer et ce qu'ils ont à dire sur différents sujets de l'heure. » S'identifier à des personnalités publiques et s'inspirer d'elles peut être bénéfique, concède la psychologue Marianne Sergery. Ça peut permettre de mieux se comprendre, de prendre des actions pour qu'on puisse s'engager dans notre vie. Donc, sur ce plan, ce n'est pas un problème en soi d'avoir une influence qui reste dans un cadre qui est sain, nous dit la psychologue Marianne Sergery. Vous écoutez Réseaux sociaux, les amitiés imaginaires, un texte de Florence Dancause paru le 22 janvier 2023 dans la presse. Emmanuel Parent y voit aussi des bénéfices. Ils peuvent être des modèles importants pour les jeunes, pour leurs valeurs ou même l'esthétique, croit-elle. Les réseaux sociaux permettent aussi de s'identifier à des personnes qui ne sont pas nécessairement présentes dans les médias traditionnels, souligne-t-elle, et à rejoindre des communautés qui partagent les mêmes intérêts. La consultante en communication numérique et réseaux sociaux, Nelly Brière, met toutefois en garde contre un faux sentiment de proximité et d'attachement même, qui peut se développer avec une personnalité à travers les réseaux sociaux. Parce qu'on a l'impression de bien connaître la personne, ça donne beaucoup d'influence sur nous et ça leur donne le pouvoir de parfois maintenir l'illusion d'une relation réciproque, dit Nelly Brière, consultante en communication numérique et réseaux sociaux. Un effet qui peut se répercuter notamment dans le portefeuille. Florence Lyonnais concède qu'elle se fait parfois prendre au jeu lorsqu'une vedette qu'elle aime publie du contenu publicitaire. « Ça m'influence à m'intéresser aux produits et à parfois l'acheter, » dit-elle. « Ça me fait me sentir plus proche de la célébrité. » Plusieurs personnalités financent leurs activités sur les réseaux sociaux grâce à la publicité. Les expertes consultées s'entendent pour dire que la majorité respecte les règles qui régissent ce genre de contenu. Or, les abonnés peuvent être vulnérables, notamment ceux qui ont développé des relations parasociales avec celles-ci. Ce qui peut être insidieux sur les réseaux sociaux, et ce qui les avantage, c'est qu'on peut avoir une recommandation hyper personnalisée, explique Emmanuel Parent. Il est plus difficile d'avoir un esprit critique parce qu'on se dit que la personne ne le recommanderait pas si elle ne l'aimait pas. À quel moment faut-il s'inquiéter? Là où c'est problématique, c'est si ça crée une sorte d'envahissement dans la vie, indique la psychologue Marianne Sergery. Si la relation devient obsédante et qu'elle prend toute la place dans la vie d'une personne et même au détriment de certaines relations qui pourraient être dans la vie réelle. Marianne Sergery donne en exemple une personne qui inonde de messages et de commentaires une personnalité connue. « Ça pourrait verser dans du harcèlement », dit-elle. Emmanuel Parent souligne que les plateformes peuvent nous inciter à passer beaucoup de temps sur un sujet donné comme une vedette, ce qui peut se transformer en fixation. Nelly Brière croit aussi qu'il faut repérer les monomanies, qui ne sont pas causées nécessairement par le numérique, croit-elle, mais que les réseaux sociaux peuvent amplifier. Une personne obsédée par maigrir, par exemple, elle pourrait juste suivre des influenceurs avec ce contenu. Ça peut être malsain et ça peut même devenir périlleux, dit-elle. Les bonnes pratiques. C'est comme si notre sens critique par rapport au relationnel qui vient du numérique n'est pas encore entrepris, notamment dans le milieu de l'éducation, explique Nelly Brière, qui croit qu'il devrait y avoir une plus grande importance accordée à la littératie numérique. Et comme les jeunes sont de plus en plus exposés à des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est d'autant plus important, poursuit Nelly Brière, d'intégrer ces connaissances-là. C'est comme si on faisait du déni en tant que société, déplore-t-elle. Est-ce correct de suivre avec assiduité de nombreuses personnalités? Tout est dans la manière de le faire, indique-t-elle, et tout passe dans le développement de l'esprit critique. La cofondatrice du Ciel, Emmanuelle Parent, croit aussi qu'il faut aller au-delà du préjugé négatif. Comme c'est très rapide et instantané, il peut y avoir une qualité moindre de contenu, mais on doit s'éloigner de ces stéréotypes-là parce qu'il y a des gens qui font du bon travail. La sensibilisation est importante par rapport à n'importe quel visage des technologies, dit la psychologue Marianne Sergery. Dès les premiers instants où un enfant est initié aux technologies, il doit être accompagné par les parents. C'était « Réseaux sociaux, les amitiés imaginaires », un texte de Florence Dancause, paru le 22 janvier 2023 dans la presse.
Repenser nos façons d'agir sur les inégalités sociales, un texte d'opinion d'Isabelle Genet, présidente directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, paru le 17 décembre 2022 dans le Nouvelliste. La pauvreté, l'exclusion et les inégalités sont des problèmes sociaux complexes. Cependant, cette complexité ne signifie pas qu'il soit impossible de les prévenir, de les réduire, de s'y attaquer pour vrai. Les politiques publiques en vigueur au Québec expliquent que la pauvreté et les inégalités sont moindres ici que dans bien des États dans le monde. Or, les inégalités sont bien présentes, croissantes et source de souffrances économiques et sociales visibles. La faim, la détresse, l'isolement, l'itinérance, la marginalisation, la liste est longue. Et à la base, la pauvreté demeure un problème de revenus, que l'on soit à l'aide sociale ou au travail. Des travailleurs ne joignent donc pas les deux bouts. Si l'on se doit de soutenir toute personne vivant une situation de pauvreté ou d'exclusion sociale afin de lui permettre d'améliorer sa condition, l'aide individuelle ne suffit pas. Pour ne plus être une société productrice de pauvreté et d'exclusion, il est nécessaire de repenser nos façons de vivre ensemble et d'agir sur les inégalités sociales. Si la pauvreté est souvent réduite à un problème individuel, la question des inégalités est plus clairement perçue comme collective, politique et structurelle. Il en va de même pour les solutions visant à réduire ces inégalités. Des actions collectives, politiques et structurelles sont incontournables. Ainsi, l'action gouvernementale de tous les paliers est critique. Ce qui a changé. Il est vrai que l'actualité témoigne d'un monde en plein bouleversement. Les statistiques sur l'insécurité alimentaire frappent l'imaginaire et font véritablement peur. Alors que la pandémie a agi comme un révélateur, la crise inflationniste joue un rôle de catalyseur des inégalités sociales. Tout semble s'accélérer. Qu'est-ce qui a changé, au fond? Pour plusieurs travailleurs, le salaire n'est plus une garantie de pouvoir se procurer l'essentiel. La demande pour les paniers alimentaires explose. À l'aube de Noël, pas étonnant que ce soit la cause chouchou, mais la crise du logement, la santé mentale, l'isolement, le décrochage scolaire et la lutte à la toxicomanie sont quelques-unes des problématiques qui doivent aussi faire partie des maillons de la chaîne d'entraide. C'est pourquoi Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, ainsi que Centraide Bas-Saint-Laurent, aident respectivement 215 et 50 organismes qui, de près ou de loin, ont une incidence sur la lutte à la pauvreté. Au fil de nos interventions, nous constatons que c'est tout le réseau qui est sous tension. La situation actuelle est d'autant plus dangereuse qu'elle touche aussi les travailleurs du milieu communautaire qui délaissent le secteur, non par manque de courage ou de vocation, mais de peur de ne plus joindre les deux bouts. L'inflation et la pénurie de main-d'œuvre affaiblissent davantage le réseau et contribuent à l'effritement du filet social. La volonté de s'entraider. Donc, la philanthropie ne peut tout faire seule, c'est vrai. Elle ne doit surtout pas devenir un mirage et promettre l'oasis pour tous. Mais il faut se souvenir que la philanthropie rassemble une mosaïque de donateurs, petits et grands, qui se mobilisent pour aider leurs prochains. Non seulement ces donateurs font un don financier, mais ils donnent bien souvent de leur temps. Ils assistent à des témoignages, rencontrent des organismes, démarrent des campagnes en milieu de travail, participent à des événements, initient la relève, forment des bénévoles, partagent leur expertise, etc. Ainsi, ils deviennent des ambassadeurs de la lutte à la pauvreté. Ils sont partie prenante d'une communauté qui se met en mouvement pour combattre les inégalités, mais qui surtout travaillent ensemble pour hisser les valeurs de bienveillance, d'altruisme et de générosité au rang de piliers de notre société. Nous avons toutes et tous la volonté et la capacité de nous entraider à l'échelle de nos familles, de nos réseaux, de nos voisinages, de nos quartiers et de nos communautés locales ou d'appartenance. Si décembre est la période des fêtes, sont propices à la générosité. Nous devons agir toute l'année. La pauvreté ne prend pas de pause ni de vacances. S'entraide a été, est et sera au rendez-vous avec l'humilité de reconnaître que notre contribution est l'une des pierres à l'édifice. Nous ne sommes pas l'édifice. Si nous pouvons faire reculer les virus et les pandémies, nous pouvons le faire avec la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Nous pouvons, tous ensemble, nous assurer de ne laisser personne derrière. C'était « Repenser nos façons d'agir sur les inégalités sociales », un texte d'opinion d'Isabelle Genet, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, est récemment rentré d'une mission diplomatique à Port-au-Prince dans le but de se pencher sur la question sécuritaire en Haïti et tenter de tracer la voie vers des élections plus d'un an après l'assassinat du président en juillet 2021. Outre l'envoi de matériel du Canada pour renforcer les capacités de la police nationale haïtienne et de sanctions à l'égard d'élites haïtiennes, aucun plan d'action concret n'a encore été évoqué, visant spécifiquement la mise en œuvre d'élections démocratiques requises en Haïti. Entre-temps, malgré l'insécurité chronique, la précarité économique aggravée, des directeurs d'école, professeurs et parents, partout en Haïti, se réunissent pour étudier la possibilité de rouvrir les écoles. Après avoir essayé en vain plusieurs fois la réouverture des classes, certaines écoles se lancent très timidement dans certains endroits moins rouges, considérés moins à risque. Voici le poignant témoignage d'un directeur d'école basé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, partenaire de l'organisme torontois Perspective Entraide Humanitaire, engagé dans l'appui à l'éducation en Haïti depuis sa fondation en 2002. Notre interlocuteur partage son point de vue dans l'anonymat pour des raisons de sécurité. Appauvri par l'insécurité. La crise sociopolitique secouant Haïti, particulièrement aggravée depuis ces derniers mois, détruit la faible économie haïtienne. Les principaux acteurs de la classe moyenne ferment leurs entreprises pour éviter qu'ils soient totalement appauvris par l'insécurité, notamment par le kidnapping. Les autres vendent leurs biens pour se rendre à l'étranger. Les uns doivent faire des efforts et accepter des humiliations, en particulier en République dominicaine, tentant de commencer une sorte de nouvelle vie sous les menaces d'expulsion des autorités dominicaines. Malgré les hauts risques de mort, beaucoup de pauvres traversent des zones de non-droit pour amener leurs enfants dans des villes de province ou à la campagne. Contexte de misère. Certains se font violer, piller, humilier. Ils arrivent dénudés chez des parents qui déjà triment dans la misère. D'autres échouent. Généralement, ceux qui restent, survivant dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et plusieurs autres villes à risque, n'ont quasiment rien. C'est dans ce contexte économique que les écoles essaient de rouvrir leurs portes. Les premières conséquences sont déjà graves. Conflits entre les parents n'ayant pas d'argent pour les frais de scolarité de leurs enfants et les directeurs qui ne sont pas en mesure d'accueillir les élèves ni payer les professeurs. Incapacité des élèves de suivre des cours car ils n'ont pas de nourriture ni de matériel scolaire, ni de moyens pour payer le transport. Terrorisme interne. Les bandits continuent à étendre leur territoire, tuent et brûlent des gens, kidnappent, volent des véhicules, des marchandises, font des concerts de tirs nourris avec des armes de guerre, ce qui a des impacts négatifs sur la réouverture des classes. Les élèves, les professeurs et les parents sont traumatisés. Dans certaines zones, on entend des tirs chaque jour faisant peur aux gens. Des bandits rançonnent des directeurs. Des directeurs d'école reçoivent des lettres de menaces ou taxes à payer. Les écoles sont prises en sandwich, d'une part menacées par le phénomène de l'insécurité généralisée et d'autre part utilisés par les leaders politiques pour faire passer leurs revendications. Tout cela crée une psychose de peur qui perturbe le processus de réouverture des classes. Précarité économique. La situation des familles vivant au sein des bidonvilles, créées aux alentours de Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre de janvier 2010, est particulièrement alarmante. Ces gens ayant tout reçu de la part d'organisations non gouvernementales, ONG à l'époque, doivent encore de multiples frais de scolarité. On les garde quand même, l'objectif général étant de permettre aux enfants pauvres d'avoir accès à une éducation de qualité. Mais aujourd'hui, la situation empire. L'aide des ONG n'existe plus, alors que les gens restent avec la même mentalité de dépendance. Ce problème continue de susciter de grandes discussions entre les parents qui n'ont pas d'argent, les professeurs qui souffrent depuis des mois, les responsables ne recevant rien des parents, ne pouvant pas aider les professeurs à reprendre le travail ni à recevoir leur salaire mensuel. Transport public à haut risque. Une station d'autobus, sise à côté d'un sous-commissariat de police, est devenue la pire localisation pour se véhiculer vers certaines écoles situées dans la région de Port-au-Prince. Cette station est aujourd'hui la proie des bandits volant des camions de marchandises. Le sous-commissariat représente leur ennemi et cible d'attaque. Quand les bandits volent un camion, ils lancent plusieurs projectiles pour faire déguerpir les gens qui occupent les rues. La police tire aussi pour les repousser. Cette pluie de tirs incessants terrorise tout le monde. Les parents, les professeurs, les élèves sont traumatisés. Ils ont peur de se rendre aux écoles de la zone en raison de leur situation géographique. Sécurité, finances, soutien psychosocial. Pour rouvrir les portes des écoles, une aide au niveau de la sécurité, de la finance et de l'accompagnement psychologique se révèle essentielle. Les directeurs d'école des zones défavorisées de Port-au-Prince ont récemment envoyé une pétition au ministre de l'Éducation pour demander un soutien. Aucune réponse à date. Cette lettre est sûrement dans un tiroir ou dans la poubelle, selon notre interlocuteur. Ce gouvernement a tellement d'autres priorités. C'était Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.